BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est votre séance cardio de l'après-midi jusqu'à 18h. Bienvenue à tous, on avance au rythme des marchés. Il est là en fil rouge, Antoine Larry-Gaudry. Rebonsoir Antoine.
Rebonsoir.
Votre mot du soir.
Retour de balancier pour le CAC 40 tout simplement qui perd 0,54%. 8164 points du côté de Wall Street. On est dans le même ton. Moins 0,54% pour le Nasdaq, moins 0,75% pour le Dow Jones. Attention, ça se retend un petit peu du côté de l'obligataire. 3,65 pour le 10 ans français, 3,02 pour le 10 ans allemand, 4,48 pour la dette américaine. Et ça se tend aussi sur le pétrole, 97,60 pour le baril de Brent de mer du Nord.
C'est toujours l'enlisement au Moyen-Orient entre Washington et Téhéran. Donc les cours du pétrole, effectivement, repartent à la hausse. Parallèlement, Washington brandit à nouveau la menace tarifaire et propose 10% de droits de douane supplémentaires sur un certain nombre de pays. On vous expliquera pourquoi, comment. Du côté des valeurs, c'est toujours la tech qui porte les différents secteurs. Aujourd'hui, Valeo gagne à l'instant 20%. Voilà, on est au plus haut du jour à l'instant sur Valeo, l'équipementier auto qui fera partie des gagnants de l'IA, nous explique JP Morgan. Détail à suivre dans un instant. Ce soir, Broadcom, à son tour, publiera ses résultats. Ce sera après la clôture de Wall Street. Et puis SpaceX, l'IPO qui se précise, sans doute dans 9 jours, cette IPO. D'après Reuters, le prix par action serait fixé à 135 $. Ceci dit, on reste assez prudent parce que c'est seulement demain que la tournée investisseur de SpaceX est supposée débuter et que SpaceX donc doit commencer à véritablement formater son offre et le prix par action. Pour l'instant, donc d'après Reuters, on irait vers un prix par action de 135 $. BFM Bourse sur l'ensemble de ces batailles de marché. Et BFM Business au cœur de l'ensemble de l'actualité. Dans le souci de réduire sa dépendance aux technologies américaines, le Parlement européen annonce aujourd'hui qu'il abandonne Google au profit du moteur de recherche français Quant. On attend aussi des mesures de Bruxelles concernant les puces, les services de cloud et l'IA dans le cadre de l'action Buy and Use European. Notez d'ailleurs que le directeur général de Google France, Sébastien Missoff, sera demain l'invité de Laure Clausier, demain matin à 7h45 sur BFM Business. Dans le même temps, des députés britanniques appellent eux à rompre un contrat public avec Palantir, géant américain d'analyse de données. L'entreprise travaille notamment pour le compte du gouvernement américain pour identifier des immigrés sans papier ou encore des cibles dans sa guerre en Iran. Ces députés britanniques alertent sur la dépendance aux fournisseurs américains et jugent que cela constitue une vulnérabilité manifeste. Et puis en France, EDF envisage de confier le génie civil du méga chantier de construction de deux nouveaux réacteurs EPR2 à un consortium réunissant les poids lourds du secteur du BTP. Vinci en fait partie, Bouygues, Eiffage également, ainsi que NGE et Fayette. EDF est appelé à construire 6 nouveaux réacteurs. Les deux premiers doivent entrer en service en 2038 à Penly, en Seine-Maritime, avant les autres prévus à Gravelines, dans le Nord, puis au Bugey, dans l'Ain. Là aussi, plus de détails avec Edwige Chevrillon dans 18-19. D'ici là, on est à vos côtés, on joue dans votre camp, c'est BFM Bourse.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos experts du club, ils viennent de nous rejoindre, de s'installer à l'instant. Frédéric Ducrozet, il est de passage à Paris, Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric.
Bonjour Guillaume.
Et vous adorez passer à Paris, hein, Frédéric.
J'adore.
Ouais. C'est bien Paris quand on n'y vit plus, hein, c'est ce qu'on dit souvent, et c'est un peu ça.
Plein de raisons d'y revenir.
Et Thibaut Prébé aussi est avec nous. Rebonjour Thibaut.
Rebonjour.
Parce que vous êtes en fil rouge avec nous, économiste indépendant, auteur de Démographie, la bombe tranquille. C'est aux éditions du Rocher, en vente depuis un mois à peu près, Thibaut, c'est
absolument.
Ça ? On en parlera de démographie, effectivement, tout à l'heure également. Les marchés sont en baisse aujourd'hui, une petite respiration, mais rien de méchant. Après 9 hausses d'affilée, le S&P ne perd que 0,3% cet après-midi. Frédéric, quand vous regardez le visage des marchés en ce moment, alors que l'économie ralentit un peu, on parlera des stats américaines du jour dans un instant, et que les marchés qui sont au plus haut, portés, dopés par l'hormone de croissance, quoi, l'intelligence artificielle, vous vous dites quoi ? On plane ou c'est rationnel.
Les profits des entreprises, c'est une réalité, c'est pas une prévision. Il y a aussi une prévision de profits qui sont tout aussi stratosphériques pour les années à venir. Mais le fait est que ces profits, c'est de l'argent réel, ce sont des dollars qui rentrent dans les caisses. On peut pas, quelque part, lutter contre ça. Et donc, il y a ce momentum très fort. Il y a une respiration, il y a peut-être même des signaux un peu techniques de positionnement qui font que cet essoufflement était attendu à un moment ou à un autre. Mais le fait est que, tant qu'on a l'espoir, en tout cas, d'un cessez-le-feu ou d'une forme de résolution du conflit et que le prix du pétrole finira par baisser. Il semble que cette économie américaine, en tout cas, et ses entreprises, et ça, son secteur technologique surtout, sont en mesure de poursuivre cette lancée. Et effectivement, c'est difficile de se mettre contre. On ne peut pas shorter le marché aujourd'hui dans ces conditions.
On ne peut pas shorter le marché dans ces conditions.
Ce que je vois en revanche, c'est... alors, il n'y a pas une forme de capitalisation, elle est déjà très élevée, mais capitulation non. En revanche, beaucoup d'investisseurs vont adopter des formes de stratégie d'un peu de type barbelle en se protégeant, parce que la volatilité elle aussi est étonnamment faible. Et donc, c'est peu cher de se protéger sur des puts sur le S&P tout en restant investi massivement dans les entreprises de la tech.
Mais alors, ce qu'on voit aussi dans le marché, c'est qu'un certain nombre de secteurs ou de valeurs qu'on disait quasi mortes, quoi, en tout cas sans avenir, qui étaient shortés, se réveillent d'un coup parce que il y a des notes, des commentaires qui disent non, mais cette valeur que le marché avait shortée, elle profitera aussi de l'IA. Et ceux qui shortaient, donc, d'un seul coup, débouclent leur position short, ce qui les fait rebondir. On voit aujourd'hui, par exemple, Valeo, on est dans l'univers automobile, gagner d'un coup 20% juste parce que JP Morgan nous dit Valeo aussi profitera de l'IA. Pourquoi? Parce que Valeo, ils font des systèmes de refroidissement de batterie pour les voitures. Les voitures, c'est leur truc, l'équipementier auto. Ces systèmes de refroidissement pour voitures serviront aussi au data center de l'IA. Plus 20% Valeo.
C'est ça la difficulté. C'est pas un événement, c'est une séquence d'événements et de diffusion, d'adoption de cette technologie qui ne s'arrêtera peut-être d'ailleurs jamais, qui fait des gagnants, des perdants. Les softwares, avant ça, ont connu aussi leur roller coaster et peuvent se reprendre. Et puis, au sein même de ces secteurs-là, il faut identifier les bonnes entreprises. Mais encore une fois.
Il y a des positions short d'un coup débouclé, parce qu'on se dit autant le marché est hyper optimiste sur l'avenir de l'IA, autant sur plein de secteurs, le marché au contraire a tendance à les vendre en disant ils n'ont plus d'avenir, peut-être en allant trop vite en besogne. Et d'un coup, donc, ces positions short se débouclent.
Tout à fait. Et par-dessus ça, je pense que le rallye de cette année en particulier, contrairement à la reprise post-Liberation Day de l'année dernière, n'est pas tiré par les investisseurs, des particuliers, du retail. Et donc, il y a cette volatilité supplémentaire. L'économie, elle souffre quand même. Et toute chose égale par ailleurs, on voit que le consommateur américain n'est pas au mieux. On va en reparler, mais on verra le rapport sur l'emploi. Il y a quand même au minimum un ralentissement de la consommation quand on fait face au plus gros choc pétrolier de l'histoire. Et donc, on peut imaginer que le dernier élément de ce rallye, s'il y a un petit plafonnement et un petit top local, c'est effectivement cette dernière contribution de l'investisseur retail qui, lui, n'a pas participé. Donc, si vous avez ça, plus potentiellement des bonnes nouvelles enfin sur l'Iran, mais des vraies, vous pouvez avoir des débouclements, effectivement, de positions short sur certains secteurs.
Oui, on verra s'il y en a encore beaucoup, des débouclements de positions short. En tout cas, le marché reste quasiment au plus haut. Les introductions en bourse arrivent, ces grandes introductions en bourse, SpaceX sans doute vendredi de la semaine prochaine, dans 9 jours, ensuite Anthropic, OpenAI. Certains nous disent que c'est mauvais signe. Quand il y a un pic d'IPO, souvent ça précède un krach de marché. Historiquement, on a vu plusieurs fois des krachs de marché juste quelques mois après un pic d'IPO, Thibault.
Oui, tout à fait. Il faut comprendre un truc, c'est qu'une introduction en bourse, c'est de la vente d'actions. C'est aussi basique que ça. Vous avez quand même plutôt tendance à faire des ventes d'actions quand vous pensez que vous les vendez bien, ce qui est un peu naturel. Et si tout le monde se jette pour vendre ses actions, c'est qu'ils pensent qu'ils ont un prix optimal pour les vendre. Donc de toute façon, il n'y a pas de grande surprise. Quand les marchés sont au point bas, vous ne vous dites pas « tiens, si j'allais lever des capitaux ». Donc tout cela va quand même globalement bien ensemble. Et puis c'est vrai que si vous venez lever beaucoup de capitaux, vous pouvez essorer un peu, parce que les montants levés sont malgré tout très importants, même si c'est des petites fractions de mégaboîtes, donc vous essorez un peu le nouvel argent qui devait venir dans le marché. Et donc après, vous pouvez avoir un peu de sortie. Maintenant, je pense que tout ce genre de grandes règles, d'investissements en mail, les machins, les trucs, ça c'est des règles qui sont amusantes intellectuellement, mais la réalité est qu'aujourd'hui, pour imaginer une correction sur le marché, on n'a pas besoin de ça. Et surtout, il faut comprendre qu'il faut regarder les deux côtés. Si on avait une correction de 20% aujourd'hui du marché, on ne viendrait pas à des niveaux déprimés du tout. Et d'un autre côté, il faut aussi le dire, ce ne serait pas du tout un problème, parce que par rapport à la tendance de long terme, des corrections de 15-20%, on en a tout le temps sans que ce soit un drame. Donc je pense qu'il faut accepter l'idée que ça fait partie du marché de parfois s'emballer, de se faire ramener un peu à terre pour reprendre le go. Après, effectivement, là où je suis d'accord, mais un tout petit peu au moins d'accord, c'est que en réalité, il faut se rappeler que les valeurs de la tech, surtout quand on parle de Nvidia, c'est des chiffres d'affaires microscopiques par rapport aux résultats qui sont monstrueux. Et donc en fait, sur l'économie globale américaine, ça pèse en fait que dalle. Par contre, ça fait des résultats monstrueux. Mais le consommateur américain tire un peu la gueule, et je pense que le risque que le consommateur américain lâche un peu, et que certaines boîtes commencent à être pas bien, est plus important que le potentiel supplémentaire dans le cas où ça se résoudrait, sachant qu'en plus, quand ça se résout, comme il faut quand même un certain temps pour que le transport de pétrole se fasse, il faudra un bout de temps avant que le pétrole, en tout cas sur la réalité de la disponibilité, baisse. Donc je dirais qu'aujourd'hui...
Vous disiez la fin de la guerre en Iran, la réouverture d'Hormuz, n'empêcherait pas la poursuite des difficultés de l'économie américaine et des économies d'infuser, de s'élargir, de s'approfondir et de durer, quoi. Il y aurait une persistance des difficultés.
J'aime rappeler ce point, si vous le permettez, que j'aime bien dire, mais un peu provoque, c'est de rappeler que les États-Unis sont neutres, on va dire légèrement positifs en export de pétrole, comme l'est la planète. Mais ça ne dit rien si vous ne regardez pas dans le détail ce qu'il y a dedans. Aux États-Unis, vous avez des majors pétrolières qui gagnent un pognon de malade, c'est super, mais le gars du Midwest qui fait son plein, qui vient de se prendre un plus 50% dans la tête, ça lui fait une belle jambe de savoir qu'Exxon va faire une super année, mais la réalité, c'est qu'il doit faire des efforts sur tout le reste de son pouvoir d'achat. Et il n'y a aucune flexibilité, contrairement en France, aucune aide, aucun pétrolier qui dit « je vais baisser les prix ». Donc l'impact aujourd'hui sur le consommateur est très fort. Comme il est très costaud, ça peut tenir. Mais il est vrai que pour beaucoup d'entreprises, ça commence à être un problème, sauf qu'elles pèsent absolument rien sur les marchés financiers. Par contre, si elles commencent à avoir des défaillances ou des difficultés plus importantes, ça peut jouer. Donc je pense qu'aujourd'hui, on pense aux crises de dette privée, au côté systémique. Moi, je pense que ce n'est pas des risques énormes. Mais comme elles sont pricées à rien par le marché, l'idée qu'on peut avoir un peu de descente là-dessus. Donc je dirais qu'effectivement, on est aujourd'hui sur une situation qui est plus symétrique, voire asymétrique à la baisse, compte tenu de ces éléments de risque, qui sont parfois un peu noyés sur le côté, ils sont exportateurs en pétrole. Je pense que c'est un point, être exportateur en pétrole pour les US, c'est un point géopolitique.
Oui, oui.
C'est moins un point économique que ce qu'on pense.
Oui, mais alors Frédéric, on dit, on n'arrête pas de dire ici, et Thibault appuie là où ça fait mal, le consommateur américain souffre et risque d'encore souffrir durablement. Peut-être, on voit le marché de l'emploi, on a eu des chiffres aujourd'hui, l'enquête ADP, il est résilient ce marché de l'emploi malgré tout ce qu'on raconte. 122 000 créations de postes en mai aux États-Unis.
On n'a pas d'éléments qui, pour l'instant, laissent penser que l'IA en particulier détruit des emplois à grande échelle. C'est vrai. Mais on n'a pas non plus, pour l'instant, une reprise du marché du travail. On a un taux de chômage très faible parce que la population, la croissance de la population, un thème cher Thibault, qui reste extrêmement faible. On ne va pas faire non plus que de la pub, mais non, mais il y a l'immigration plus la population et la démographie qui fait que ce taux de chômage, voilà, il est à 4 et quelques pourcents. Mais bon, c'est pas un marché du travail extrêmement fort. Et puis surtout, ce consommateur, il n'y en a pas qu'un. Il y en a au minimum deux. Le cas dans l'économie est toujours bien marqué. Les inégalités d'emploi, de salaire et de richesse sont monstrueuses. Et la conséquence de ce rallye, je pense que c'est ce que j'ai personnellement sous-estimé ou collectivement aussi, le boom de l'investissement, le boom des marchés a créé encore un effet richesse encore plus important que ce qu'on imaginait, qui là aussi soutient la consommation. S'il y a correction, c'est un argument, effectivement, en termes d'asymétrie des risques, il va là aussi vers, dans le sens de à la baisse, hein, parce que plus de 40% de la richesse des ménages maintenant est dans les actions, un record historique. Donc si on a d'aventure cette année, plus tard, après les IPO, une baisse de l'ordre de 20 ou 25% des marchés, ça peut se ressentir cette fois sur l'économie réelle aussi.
Oui, mais encore une fois, c'est une minorité qui profite de cette hausse, de l'ampleur de la hausse des marchés. C'est une minorité, du coup, qui souffrirait de la hausse des marchés parce qu'on n'arrêtait pas de dire avant, c'était mieux partagé. Là, si les marchés corrigent, ce sera les ultra-riches qui en souffriront, un peu moins les classes moyennes, puisqu'on dit qu'ils sont moins exposés.
C'est vrai, mais on vient de vivre 3 mois et on vit encore dans cet environnement totalement incertain, oui. Ubuesque sur les déclarations du président et le cessez-le-feu qui ne vient pas. Il y a 3 mois, on était dans une situation complètement différente. Faut pas oublier l'aspect budgétaire. Donc on s'attendait à ce que K se referme, à ce que le consommateur dans les revenus les plus bas voit des perspectives s'améliorer et le marché du travail vraiment rebondir. Donc quelque part, c'est là où on est un petit peu dans le flou encore.
D'accord.
Il y a un soutien qui est là potentiellement, qui est latent. C'est là aussi pourquoi on pense que à terme, effectivement, l'économie américaine peut toujours tenir, même si les taux d'intérêt restent élevés. C'est parce que les conditions étaient plutôt bonnes initialement il y a 3 mois. Et tout dépend encore une fois de la durée de ce conflit. Je suis également d'accord avec l'idée que le marché me semble complaisant sur la baisse du pétrole, même en cas de résolution.
Et sur le marché obligataire, est-ce qu'on a trop de complaisance? Parce qu'on s'était fait très peur il y a 10 jours, 2 semaines, avec des taux obligataires qui montaient en flèche. Et puis là, ça s'est complètement assagi. Le chemin là, qui nous attend, le chemin historique dans lequel on est, c'est une poursuite à la hausse des taux, mais ça passe sur les marchés ou c'est une poursuite à la hausse des taux et ça va casser?
Pour les marchés actions, c'est pas tant le niveau du taux d'intérêt qui compte. C'est d'abord combiné à la croissance nominale, tout simplement. Hein. Si vous avez énormément de croissance, vous avez des taux plus élevés, tout va bien, les profits des entreprises tiennent, etc.
Oui.
C'est plutôt la vitesse d'ajustement, c'est plutôt le move. La volatilité du marché action qui compte, du marché obligataire qui compte pour le marché action, et c'est la valorisation du marché action qui est dépendante de ces taux d'intérêt. Donc c'est une équation un petit peu plus compliquée. Pour le moment, ça tient. Je dirais qu'on est, tant qu'on n'est pas à 5% ou au-delà sur le 10 ans américain, c'est une équation qui peut là aussi tenir.
Ça peut tenir quand même, Thibault. Vous êtes à cheval hein, sur le marché obligataire, marché action.
C'est-à-dire, déjà, il faut rappeler que le marché obligataire, c'est un marché de rupture. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire que quand quelqu'un a un problème, il a un problème. Quand tout le monde a un problème, on n'a pas de problème. Quand tous les pays étaient en difficulté pendant le Covid, toutes les banques centrales rachètent de la dette, ce qui de facto revient à les annuler et tout se passe bien. Un peu comme en France, quand toutes les boîtes sont bloquées, ouais, avec le Covid, on fait des emprunts pour tout le monde à zéro et ça fonctionne. Quand une boîte est tout seul ou qu'un pays est tout seul, par exemple, que le Royaume-Uni avait fait un peu guignol, on se fait vite sécher. Donc aujourd'hui, il faut avoir en tête que le côté homogène de cette correction liée au détroit d'Ormuz est en soi beaucoup moins problématique que quand elle est unitaire. Ensuite, aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas dans des valorisations rationnel. On le disait aujourd'hui, personne ne va aller à l'introduction de SpaceX en disant j'ai fait un DCF, c'est-à-dire une valorisation papier sur les flux de cash à venir, et dit j'ai une valorisation. Ça marche pas comme ça. On n'est pas dans un marché de valorisation hard. Donc en fait, tout le monde s'en fout, donc c'est pas grave. En revanche, le sujet, à quel moment il y a une rupture, plus personne ne veut financer, etc. On n'est pas là-dedans. On est dans des réajustements de niveau de taux par rapport à l'inflation. Ouais. On n'est pas des niveaux de taux où tout le monde balance du papier et plus personne n'en veut. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque.
En fait, l'obligataire, c'est le sujet pour les États, mais pas pour les marchés aujourd'hui.
Non, mais ça peut le devenir. Mais aujourd'hui, il est clair que de par le côté très homogène, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si les taux américains étaient à 5,50 pendant que les autres baissaient, on pourrait se dire tout le monde est en train de lâcher le papier américain. Oui. Ça va vite mal se passer. C'est pas du tout le contexte aujourd'hui, donc je pense qu'il faut accepter le fait que c'est une mauvaise nouvelle, que budgétairement c'est problématique pour très longtemps, parce que toutes les nouvelles levées de fonds vont bloquer des taux importants sur des nouvelles dettes, donc ça va être évidemment un sujet, mais c'est pas dramatique. En tout cas, à ce stade.
On a cette question d'une auditrice ou d'un auditeur, je ne sais pas si c'est il ou elle, Mila077 sur le Félix BFM Bourse. La tech, je vous livre sa question, vous pourrez y répondre chacun. La tech qui monte donc, va-t-elle compenser le vieillissement démographique? Je sens que c'est vous qui allez répondre, Thibault. Va-t-elle compenser le vieillissement en augmentant la productivité mondiale et ainsi nous offrir une croissance infinie? La tech, compenser le vieillissement grâce à plus de productivité?
Ah, je suis très embêté pour cet auditeur qui a manifestement pas lu démographie, la bombe tranquille. Quelle erreur. Écoutez, le problème, c'est de comprendre une chose, c'est qu'il faut pas parler toujours en termes de croissance. Aujourd'hui, la tech, c'est plus un facteur de croissance, c'est un facteur de gain de productivité. C'est un facteur de comment on fait mieux avec moins de gens. Donc, ce n'est même pas forcément. Donc, et de par là, c'est une très bonne solution si on a un problème de main-d'œuvre. Donc, c'est tout à fait plus une solution au ralentissement démographique que si ça générait juste de la croissance en plus. Là, en l'occurrence, en train de se dire que c'est plutôt parfois des bons hommes en moins. Pas énormément de bons hommes en moins, mais à terme, c'est plutôt des bons hommes en moins. Donc, c'est évidemment une solution. La seule difficulté qu'on a, c'est juste un peu comme pour le technosolutionnisme sur la partie verte, c'est de se dire, ça peut gérer des sujets, ça serait quand même bien qu'on adapte nos systèmes sociaux pour que si ça se révèle une solution moins bonne que prévu, on n'ait pas plus de capacité à soigner ou avoir des retraites. Donc je dirais que c'est plutôt quelque chose de positif, mais avec un vrai risque, c'est que ça nous aveugle sur le fait d'avoir d'autres solutions alternatives et d'assurer des financements sains de nos programmes sociaux. Donc je dirais plutôt oui, à condition de ne pas compter que là-dessus.
La tech va-t-elle compenser le vieillissement grâce à la hausse de productivité et nous offrir une croissance infinie? Question de cet auditeur ou auditrice Mila077.
Il faut espérer que ça règle un certain nombre de problèmes ou que ça nous aide à les régler. Et pour mettre en œuvre toutes les mesures dont on vient de parler, il faut des marges de manœuvre budgétaires. Moi, ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est un stress test en grandeur nature qui met en évidence les vulnérabilités, les éléments faibles, les maillons faibles. Le Royaume-Uni avec Liz Truss est le premier moment comme ça dans le marché obligataire a été un premier exemple. Le Japon est un pays que je surveille toujours et en particulier en ce moment. Il y a un graphique très simple. Les taux japonais ne font que monter. Le cours de bourse des banques japonaises également. Et je pense que tout est résumé là-dedans. Tant que vous avez de la croissance, tant que ça se fait de manière intelligente, tant que vous mettez en œuvre ces mesures pour permettre l'adoption de cette technologie et permettre, on l'espère, de résoudre des problèmes, ça ira. Si un jour, parce que la croissance casse, qu'on est trop haut, ou parce que les banques japonaises qui détiennent évidemment une énorme part de la dette nationale ont un problème, alors c'est une autre configuration. Et je pense qu'à ce moment-là, les taux rebaissent pour des mauvaises raisons.
On poursuit nos échanges, on est à 16 minutes de la clôture. On essaie de mesurer le pour, le contre face à cette hausse de marché, les arguments pour, contre. Aujourd'hui, on est sur une respiration en tout cas. 15 minutes de cette clôture, le CAC perd 0,5%, 8163 points. Stellantis, Lanterne Rouge, moins 4. Kering aussi recule de 3,6% aujourd'hui. Puis à la hausse, Air Liquide, donc qui va accompagner SK Hynix, vous savez, le coréen pour fabriquer des puces mémoire. Air Liquide investira 200 millions de dollars auprès d'SK Hynix. Ouais. Et du coup, Air Liquide prend la vague de l'IA également et gagne 2%. C'est la plus forte hausse du CAC cet après-midi. Veolia gagne 2%. Et puis on parlait de Valeo, donc en hausse de 20%, plus 20%. Parce que d'après JP Morgan, Valeo aussi finalement profitera de l'IA en refroidissant les data centers grâce à ses systèmes de refroidissement des batteries. Valeo à 16,86€ en ce moment. On en parle donc avec nos deux experts ce soir. Ils sont là en plateau, Frédéric Ducrozet et Thibaut Prébé. L'Europe, pendant ce temps, essaie de reconquérir sa propre souveraineté, regagner en souveraineté. Le Parlement européen annonce aujourd'hui qu'il abandonne Google au profit du moteur de recherche français Quant. On attend aussi des mesures de Bruxelles concernant les puces, les services de cloud, l'IA dans le cadre de l'action Buy and Use European et les Britanniques, des députés britanniques appellent à rompre un contrat public avec Palantir. C'est une clé ça aussi de la future croissance européenne, la reconquête de souveraineté, Frédéric.
Absolument. D'un point de vue purement macro, ça passe par, encore une fois, se donner les moyens de nos ambitions. Oui. Moi, l'Europe, mon obsession, ça reste de terminer le marché unique, de terminer l'union bancaire, de terminer, commencer et terminer l'union des marchés de capitaux, d'autoriser l'émergence de champions, pas seulement dans la tech. Bien sûr que c'est la finalité. Mais l'exemple que je prends toujours dans ces cas-là, c'est les États-Unis dans les années 90, qui ont passé une législation qui a permis à la petite start-up de San Francisco, la PME du Texas, de se financer par du venture capital, des banques, des entreprises non bancaires dans d'autres États, c'est-à-dire de vraiment créer une union de marché de capitaux à l'américaine. Et nous, on a les moyens, on a la volonté politique de le faire. Et ça, c'est pas, je pense, hein, y a pas de blocage particulier. On a des idées très concrètes comme le 28e régime de Enrico Letta. Et il ne manque plus que la mise en œuvre. Et il y a toujours une crise, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une élection qui nous empêche de le faire. C'est extrêmement frustrant. Pour moi, c'est ça. C'est mettre la charrue avant les bœufs que de penser d'abord à la finalité de quelle entreprise on va acheter ou on va soutenir. C'est d'abord de se donner les moyens d'avoir des marchés efficace, qui finance ça à bas coût et si possible aussi de ne pas monter les taux d'intérêt trop dans cet environnement.
Ah, c'est un appel à la BCE. Sujet, non, mais... Suivez votre regard, la BCE la semaine prochaine devrait relever ses taux. Ces premières mesures annoncées et notamment se passer effectivement de Google pour les outils de recherche, privilégier Quant au Parlement européen, c'est bien, c'est un début. Thibault.
Oui, très bien. J'aurais bien parlé aussi de la BCE parce que je râlerais bien aussi sur cette hausse de taux qui est complètement débile, sauf si elle arrive à ouvrir le détroit d'Ormuz, qui me semble délicat. Effectivement, il faut rappeler que la souveraineté est un enjeu majeur. Quand on voit le délire de Trump, ses guerres, etc., que fait la Chine? Elle dit, dès qu'elle est un peu tapée dessus, bon, les terres rares, les gars, c'est bien, mais je vais les garder. Et puis tout de suite, ça se calme très vite. Nous, on fait rien. Parce que comme on est dépendant de toute l'infrastructure pour notre défense, pour notre IT américaine, on peut rien faire. Oui. Donc, commencer par regagner une autonomie, une indépendance qui va nous permettre de nous défendre correctement sans être complètement à poil, parce qu'on peut supporter des taxes sur des vins, on peut pas supporter de plus pouvoir tourner tout simplement. Donc ce sujet, il est complètement clé. Ensuite, il faut créer une vraie Europe. Créer une vraie Europe, c'est par exemple, on a eu cette discussion sur Total, qui est agressive mais qui est pas fausse, laisser des profits se balader dans certains pays, dont la Suisse, laisser les GAFAM mettre toutes leurs impôts en Irlande pour pas en payer pendant que les autres... Donc il faut commencer déjà par s'auto-concurrencer entre nous-mêmes. Et ça passe, c'est aussi ça dans la construction. Effectivement, ne plus se taper tout le temps des vétos de la Hongrie ou autre va aider. Donc il faut qu'on termine cette idée que si on veut une force, il faut déjà parler comme un seul et donc pas se plomber les uns les autres. Et ensuite, effectivement, la souveraineté européenne, si elle se fait, compte tenu de la taille du marché qui est énorme, ce sera un atout dans toutes les négociations et de tous les éléments. Et ça nous permettra d'avoir des objectifs ambitieux qu'on ne peut pas avoir si on se tape les uns sur les autres et qu'on n'est pas souverain.
C'est bien, sauf qu'au sein même des pays, on se tape les uns sur les autres. Regardez le plan de défense et d'infrastructure en Allemagne. Il chancelle déjà un tout petit peu quand même. Il est long à se mettre en œuvre ce plan. Keir Starmer est fragile à la tête du gouvernement allemand. Et pourtant, on misait beaucoup sur ce plan pour relancer la croissance européenne.
Bon, il est toujours en cours. On parle de 1000 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Les Allemands n'ont peut-être pas la culture de la dépense comme on a, nous, dans ce pays. Ça s'apprend et ça se fait de manière intelligente et graduelle. Donc,
très graduel, oui.
Il y a quand même... Alors, quand vous regardez le graphique, c'est quand même un changement de régime. On double ou on triple parfois sur certains mois les dépenses d'État dans l'infrastructure, la défense en Allemagne, et c'est prévu de durer sur plusieurs années. Quand on parle des data centers, l'investissement aujourd'hui, c'est jusqu'en 2030-2035. C'est la même chose pour la défense, et même pire, entre guillemets. Les carnets d'ordre sont très longs, ça prend du temps. La politique m'inquiète, c'est sûr, parce que non seulement on ne parle pas d'une seule voix, mais on a des calendriers électoraux qui ne sont pas synchronisés. Ça aussi, c'est un problème fondamental de l'Europe. Et donc, on va avoir des élections l'année prochaine, ça ne vous aura pas échappé, dans des grands pays et sans arrêt. Oui. Et Friedrich Merz, effectivement, est dans une situation délicate parce qu'il y a les aspects plus politiques et sociétaux qui sont difficiles à gérer.
On entend parler de possibles élections en Allemagne, peut-être. Friedrich Merz, menacé dans les 6 prochains mois.
On en parle depuis longtemps. Chancel. Effectivement, ça fait un petit moment parce que cette grande coalition est fragile et le reste, et que c'est des grands partis, des vieux partis vieillissants en Allemagne qui ne se sont pas encore renouvelés.
Donc c'est compliqué de lancer un plan aussi gigantesque que ce plan de défense et d'infrastructure qui engage le pays sur long terme. Je veux dire, on est sur une échelle historique avec une coalition si fragile et un plan qui pourrait du coup derrière être remis en cause, qui a du mal d'ailleurs à démarrer.
Je pense qu'il est quand même dans une large mesure irréversible. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière. Les deux conférences de sécurité à Munich cette année et l'année dernière marquent un tournant majeur pour l'Allemagne. Et je pense que ça, c'est, à l'exception de l'extrême droite, l'AFD en Allemagne, partagée par la quasi-totalité des partis. C'est pénible, c'est délicat à mettre en œuvre, mais c'est quand même un mouvement de d'investissement public et privé en Allemagne qui est lancé. Ce qu'il faut espérer, c'est que ça aille plus loin en termes de baisse d'impôts pour les PME, de baisse de la bureaucratie, ce qui est peut-être la priorité numéro un du chancelier aujourd'hui, et de permettre de relancer l'emploi dans des industries qui ont été complètement tuées par la concurrence chinoise et par la guerre commerciale depuis plusieurs années.
Oui, dans le désert, il arrive que les fleurs réapparaissent, quoi. Mais elles tiennent pas longtemps généralement. C'est ça le problème.
Et puis il y a aussi cette idée que l'Europe n'avance que dans des crises. On a maintenant un champ un tout petit peu plus dégagé. L'Allemagne l'avait aussi. Il faut espérer que ces initiatives se poursuivent. Encore une fois, ce plan de dépenses, il est peut-être frustrant et lent dans sa mise en œuvre, mais il est, je pense, irréversible dans son intention.
D'accord. Friedrich Merz ou pas Friedrich Merz? J'ai réussi à le dire deux fois, Thibault. C'était un pari.
Non, félicitations. Voilà. À la limite, tout le côté fascinant allemand, c'est que je dirais presque qu'on s'en fout, parce qu'en fait, les gouvernements suivent. Malgré tout, il y a une cohérence. On n'est pas dans des ruptures monstrueuses, comme il y a dans certains autres pays, quand il y a un changement de dirigeant. C'est toute la force de cette très grande coalition auquel, en France, on essaye de s'habituer et que d'autres pays ont l'habitude de mettre en place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette cohérence européenne. Pourquoi? Il faut bien comprendre que l'acte de création de la BCE, c'est Mario Draghi.
J'étais sûr que vous alliez nous amener à la BCE et retaper Mario... sur Christine Lagarde.
Non, pas du tout. L'idée, c'est de dire
tous
que Mario Draghi,
pourquoi
est-ce qu'il nous fait un whatever it takes? Parce que les pays ne sont pas capables de le faire. Donc, ils se substituent à des pays qui ne sont pas d'accord, ne se parlent pas entre eux, pour sauver, entre guillemets, la zone euro. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que les droits d'Ormus, c'est un sujet de pays. Dire qu'il faut bloquer le prix du pétrole, que ça coûte de l'argent et qu'après la BCE achète de la dette longue pour mitiger, c'est une stratégie de cohérence entre les deux. Mais les pays peuvent réagir, peuvent faire baisser le prix du pétrole, limiter l'inflation, pas la Banque centrale. Et la Banque centrale, après, elle peut mitiger. C'est-à-dire qu'il faut retrouver cette coopération entre deux instances complémentaires où à un moment, la Banque centrale a tellement tout fait qu'on a oublié que les États avaient le droit de participer. Et évidemment, pour ça... Il faut que les États parlent d'une seule voix pour éviter qu'un pays baisse les prix, tout le monde va chez lui prendre du pétrole et ainsi de suite. Donc je pense que, en fait, quelque part, il faut que les États soient forts pour que la BCE ait moins besoin de prendre leur rôle. Et on peut pas reprocher à la BCE de remplacer des gens qui font pas leur job, mais si on arrive à avoir un État qui prend la mesure des sujets et les traite, on n'aura plus besoin que la BCE le fasse à leur place. Et donc je pense qu'il faut pas critiquer la BCE, mais créer les conditions pour qu'elle puisse travailler sur des sujets où elle a la main, elle peut pas faire quelque chose sur le pétrole.
Elle a la main sur les taux. Voilà, elle va relever les taux probablement la semaine prochaine, la BCE, parce que l'inflation accélère en zone euro. On a eu les chiffres hier, 3,2% l'inflation.
C'est débile.
Mais c'est dans son mandat.
Alors, parce que son mandat, ça voudrait dire que son action va réussir à faire baisser l'inflation. Or, ton action va pas faire baisser le pétrole, hein, ça va absolument rien donner. Je vous rappelle une statistique qui m'amuse. En janvier, on était à 0,3 d'inflation en France. Alors, les autres pays étaient au-dessus, mais à la baisse. Quand on passe les taux en territoire négatif en 2019, l'inflation française est à 0,6. Donc on était déjà à une inflation plus faible que celle qui a justifié des taux à moins 0,4. Et aujourd'hui, alors qu'on a uniquement un choc exogène, une tendance d'inflation qui reste très basse, hors choc exogène, on en parle de monter les taux. Je suis désolé, c'est débile.
Et elle commence à s'élargir un peu, cette inflation, Frédéric.
Ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'on apprenne énormément de nos erreurs passées. C'est pas du tout 2008, c'est pas du tout 2011. Une hausse de taux que Mario Draghi avait d'ailleurs acceptée et votée à l'époque, hein, je le rappelle toujours. Les conditions sont très différentes. Il y a vraiment, eux-mêmes le disent, aucune raison de penser que ce choc exogène sur les prix de l'énergie qu'ils ne contrôlent pas va avoir aucun effet sur les salaires de second tour ou sur les anticipations d'inflation. Donc c'est vraiment la peur, le traumatisme de 2022, d'être en retard, de devoir courir derrière. Et je pense qu'effectivement, c'est injustifié.
Est-ce que c'est si grave que ça? Imaginons, ils relèvent leurs taux une ou deux fois cette année, ils les rebaisseront d'autant.
C'est même une bonne nouvelle à terme pour la Fed si elle venait à monter les taux et que tout ça tenait, parce que ça voudrait dire qu'en réalité, on s'est trompé sur ce fameux discussion de R-Star, du taux neutre, qu'il faut être à un taux plus élevé, et ça serait une bonne nouvelle. Mais là, c'est pas ça. La BCE ne vous dit pas, en fait, la croissance est trop forte, il faut que je remonte les taux. Pas du tout. La croissance va aller à zéro dans le meilleur des cas.
Oui.
Donc, non, il n'y a pas de signe de surchauffe, c'est moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas de signe d'accélération des salaires, ils baissent. Il n'y a pas de signe de désancrage des anticipations d'inflation. Je suis désolé, ça me semble être effectivement une erreur de politique économique.
À suivre la semaine prochaine. On sera en spécial dans BFM Bourse, bien évidemment, pour commenter, analyser la décision de la Banque Centrale Européenne. Pendant ce temps, Kevin Warsh, il vit sa meilleure vie, hein, président de la Fed. Depuis qu'il est président de la Fed, Wall Street n'a fait que monter. Il n'y a pas eu une seule séance de baisse à Wall Street depuis qu'il est président de la Fed, c'est du jamais vu.
Il vient de mettre les pieds dans son bureau la semaine dernière seulement.
Il a 7 hausses d'affilée depuis qu'il est président de la Fed. Aucun président, nouveau président de la Fed n'a eu cette
C'est aussi le premier président de la Fed qui arrive au bureau avec le taux 10 ans à ce niveau-là, qui est le plus haut depuis Alan Greenspan. Et je pense qu'en ayant vendu le cas de baisse de taux avec l'IA qui est désinflationniste, le choc pétrolier qui va passer, ça va lui faire quand même un tout petit coup de froid d'arriver et de, bah, il le sait, hein, que tous ses collègues, y compris Chris Waller, qui était quelqu'un qui allait être avec lui pour des baisses de taux potentiellement, a complètement viré de bord. Et qu'il va falloir, à mon avis, le meilleur cas possible pour Kevin Warsh cette année, c'est qu'il réussisse à ne pas monter les taux. Donc c'est quand même, ça change un petit peu la donne. Mais là aussi, ce serait une bonne nouvelle si tout ça tient. Parce que ça veut dire que, quelque part, l'économie américaine peut vivre avec des taux aujourd'hui à peut-être 3,5, pourquoi pas 4% un jour. On parle pas de 10%. Le problème...
Ce qui compte, c'est la vitesse.
Et aussi les marchés, parce que vous êtes à un équilibre quand même fragile. Je reviens à ce marché obligataire. Le taux 10 ans, c'est vrai, n'est pas un niveau pour l'instant trop élevé pour casser la croissance ou les marchés. Warsh, ça, on n'a jamais eu encore un premier test, là aussi, en grandeur nature, une conférence de presse. Il va avoir la question, est-ce que vous pouvez exclure la possibilité de monter les taux cette année ? Sa réponse doit être non. C'est possible. Eh ben, je suis désolé, mais je crois pas que ce soit totalement pricé non plus. Donc, un accident est possible.
Mais il veut pas annuler les conférences de presse, non? Il voudrait pas les limiter.
Effectivement, mais ça, c'est un processus de long cours, une réforme de profondeur de la communication de la Fed, de la guidance, de plein d'autres choses, du bilan, de la régulation. Ça va prendre du temps. La première chose que les marchés veulent savoir le 17 juin, oui ou non, est-ce que vous pourriez envisager de monter les taux cette année?
En tout cas, chapeau l'artiste, voilà, toujours pas de baisse à Wall Street depuis qu'il est là.
Je vous rappelle même que Liz Truss est la première première ministre en 50 ans à avoir connu deux rois et reines, et ça s'est pas bien terminé, donc les stats, c'est sympathique, mais c'est pas toujours un truc...
Oui, et il y a deux rois et reines qui ont connu Liz Truss, et ça s'est pas bien terminé. On poursuit dans un instant la clôture, on va la vivre ensemble, d'abord on entre dans la data room. À dada sur les data, à cheval sur les chiffres, ils veulent, nos deux experts, par leur simple data, vous remettre en selle l'investisseur qui est en vous. Vous avez chacun une minute pour livrer une data forte, Frédéric et Thibault. Êtes-vous prêts ?
Eh oui, prêt.
On démarre, vous avez une minute donc. Frédéric, votre chiffre, 9.
9, c'est le nombre de semaines consécutives de hausse de l'indice du S&P 500 aux États-Unis. Ce n'est arrivé qu'une fois en 10 ans en 2023. Et si on bat ce record cette année, avec 10 semaines de hausse consécutives, c'est quelque chose qu'on n'aura pas vu depuis 30 ans. Je soupçonne qu'on sera encore là dans les semaines à venir pour débattre bulle, pas bulle. Notre point de vue, c'est que c'est pas une bulle de valorisation encore avant les IPO, une bulle de profit peut-être. Mais le fait est qu'on est déjà sur une dynamique qui paraît insoutenable à long terme en termes d'investissement, de profit, de marge, et qu'effectivement l'essoufflement qu'on aperçoit ici ou là peut-être peut se transformer en correction un peu plus marquée dans les semaines qui viennent. La Fed reste un élément à mon avis essentiel dans cet environnement.
Frédéric, vous venez de délivrer une data forte, vous venez de la faire sortir de sa prison et de sa cage. À vous Thibault de libérer une belle data. Votre chiffre, 88,1 ans.
88,1 ans, ouais. Pour moi, la séquence présidentielle commence en France la semaine prochaine, avec lundi l'INSEE qui donnera ses prévisions 2026, hein, la révision depuis 2021, donc sur une séquence de 5 ans, puis le Conseil d'orientation des retraites qui utilisera ces hypothèses pour revoir le trou béat de financement des retraites et les implications qui vont être extrêmement politiques puisqu'il faudra des solutions, immigration ou pas. Une autre donnée, moins démographique au sens économique mais très intéressante, m'a attiré, c'est qu'on a une révision, dans ce qui est déjà connue mais qui sera confirmée lundi, de l'espérance de vie pour 2070, qui passe de 88,75 ans à 88,1 ans. C'est-à-dire que l'espérance de vie diminue. Alors, c'est extrêmement intéressant, parce qu'à l'époque où on nous décrit des livres en disant qu'on va vivre 1000 ans, que les GAFAM nous promettent de régler toutes les maladies, on voit une espérance de vie qui baisse, ce qui est la tendance, hein, d'ailleurs, dans beaucoup de pays. Donc, c'est intéressant de noter qu'à l'époque où on commence à se sentir invulnérable, invincible, l'INSEE nous ramène sur Terre en disant vous vivrez peut-être plutôt moins longtemps que ce qu'on prévoyait. Je trouve que c'est assez intéressant de voir que, même dans ce domaine-là, on peut ramener les GAFAM à Terre.
Donc, d'après l'INSEE, en 2070, en France, l'espérance de vie sera non plus de 88,75, mais 88,1 ans.
Vous avez vu, c'est vous qui avez fait dépasser. Hein. Moi, j'avais respecté. Absolument, une baisse de 6 mois.
Pourquoi ?
En fait, ils considèrent que l'espérance de vie va monter de 6 ans à peu près pour les hommes et 3 ans pour les femmes, ce qui est un peu moins que prévu précédemment, et ce qui est lié au fait qu'ils notent qu'effectivement, les gains de hausse vont de moins vite que prévu. Dans certains pays, de plus en plus nombreux, ça vient même baisser. Ce qui est lié au fait, alors il y a plein d'éléments, hein, mais il y a le fait que on a globalement une santé, on peut penser au diabète, on peut penser à l'obésité qu'on progressait. Ouais, et puis il y a aussi un côté que moi m'intéresse, c'est rappeler que dans la santé, à force de soigner toutes les maladies, on a des gènes qui se transmettent et on a des trucs qui pullulaient pas avant. Donc en fait, il y a tout plein d'éléments qui sont intéressants, mais C'est juste une autre vision de la vie. C'est intéressant à regarder, peut-être moins positif, je suis désolé.
Et à lire aussi dans votre livre d'ailleurs. Merci beaucoup Thibaut Prébé et Frédéric Ducrozet pour Pictet Wealth Management étaient nos deux experts ce soir. Dans un instant, la clôture, comme promis, on va la vivre avec Antoine. À tout de suite.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Et clôture en baisse pour le CAC 40 qui perd 0,71% à 8150 points. Les volumes d'échanges 4,2 milliards d'euros. Une journée correcte pour les échanges sur le CAC 40. L'Euronext Tech Leaders recule un tout petit peu plus, moins 0,84%. L'Eurostock 50, moins 0,89%. C'est Francfort qui prend l'impact le plus notable, moins 1,3%, alors que du côté de Madrid, on perd 0,37%. Or déjà, la géopolitique, oui, on n'avance pas sur le dossier iranien, mais alors, c'est reparti, puis c'est reparti assez fort sur les taux obligataires. C'est notamment en fin de séance que ça a vraiment marqué le coup. On a 3,66 maintenant au compteur sur l'OAT 10 ans, 3,04 sur le 10 ans allemand, 4,50 désormais tout juste sur le 10 ans américain, donc ça continue à se tendre. Et pareil pour les prix du pétrole, 95,55 pour le brut léger américain, 97,59 pour le Brent de mer du Nord. Du coup, à Paris, ce sont vraiment les valeurs de rendement, les valeurs ennuyeuses, les valeurs d'infrastructure qui ont signé les plus fortes hausses, ainsi que l'énergie, bien sûr. Total plus 1,2%, 77,58. Carrefour plus 1,46, 15,94. Air Liquide plus 1,9, 179,90. Le leader dans ce contexte, Veolia, plus 2,22, 35,06. À la baisse, le luxe et l'automobile, c'était les deux secteurs les plus vendus. Kering moins 4%, 244,05. Stellantis moins 4,04 à 6,36. Renault moins 2,71 à 27,26. Un petit coup d'œil sur le SBF 120, plus forte hausse Valeo, dont on va reparler, qui gagne 18,4%. 0,64. À noter le rebond d'Abivax, mais enfin bien loin de tout ce que le titre a perdu hier. Le titre qui reprend 12,9% à 71,25€. La plus forte baisse, elle est pour Worldline, moins 7% à 31 centimes.
Romain Dobry est avec nous pour Bourse Direct. Rebonsoir. Romain, on termine à moins 0,7. Donc sur le CAC 40, après la hausse d'hier, comment sentez-vous la suite techniquement, Romain?
Bien, toujours cette situation d'attente en Europe avec un indice Eurostock qui avait pris 1,20% hier et dans lequel on a, sur lequel on a vu 3,2% de baisse de l'intérêt sur les futurs. Donc pas de soutien, ça se traduit par un mouvement de baisse aujourd'hui. À nouveau, on est bloqué dans un trading range, toujours sur l'indice CAC 40, 8082 en bas, 8259 en haut. C'est la sortie de cette zone de prix qui nous en dira plus. On est vraiment en situation d'attente. On voit un peu de fébrilité, si on peut dire, sur les indices américains aujourd'hui. Et pour compléter la data room de tout à l'heure, eh bien, ça fait neuf semaines de hausse sur les indices américains. Ça fait 9 séances de hausse d'affilée aussi sur le S&P sans le moindre retracement. Donc peut-être une petite baisse aujourd'hui. Mais encore une fois, on est en attente en Europe et en euphorie sur les indices américains avec des scores sur Marvel qui progressent encore aujourd'hui après sa progression d'hier. Et Dell et Hewlett-Packard, par exemple, parmi les progressions qui sont quand même assez étonnantes récemment.
On continue d'en parler. Vous restez avec nous, Romain. On va débriefer la séance pour vous tous qui nous suivez en direct. On est avec vous jusqu'à 18h.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec Thibaut François, Fastia Capital. Rebonsoir Thibaut.
Rebonsoir Guillaume.
Le rouge avec nous. Franck Morel aussi, le président de Zone Bourse, nous accompagne. Bonsoir Franck. Ravi de vous retrouver aussi. Et donc Romain, toujours en fil rouge. Le CAC ce soir à moins 0,7%, c'est vraiment par elle, avec elle et en elle. Ah oui, l'intelligence artificielle, tout se passe, tout vient de l'IA là sur les marchés, tout passe par l'IA, tout mène à l'IA. Les semi-conducteurs effacent presque les 7 magnifiques, ce sont les semi-conducteurs qui font l'année là pour l'instant sur les marchés. De toutes ces valeurs qui montent, qui s'envolent depuis le 1er janvier, laquelle vous semble ne pas vivre une exagération, ne pas vivre une euphorie, mais mériter véritablement cette hausse et amener à la poursuivre? Une valeur de la tech qui s'envole et qui va continuer. Thibaut.
Allez, je me lance, je me mouille. STM, énorme rebond dans le CAC. Hein, c'est leader du CAC depuis le début de l'année. Ils ont vraiment pris le virage de l'intelligence artificielle, chose qu'ils n'avaient pas du tout fait jusqu'à maintenant. On l'a vu le virage. Vraiment, c'était au mois de décembre l'année dernière. Ils étaient très focus encore sur les anciens métiers et ils ont vraiment mis l'axe sur l'intelligence artificielle. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Donc, on attend avec impatience la publication du deuxième trimestre. Mais on pense que c'est pour l'instant juste un rattrapage et on verra si on a confirmation avec les chiffres dans les prochaines semaines.
STMicroelectronics hier a annoncé multiplier par deux ses perspectives de chiffre d'affaires. Simplement, on nous dit oui, mais ils le font parce que beaucoup d'entreprises sont en train d'augmenter leur stock et puis à un moment, ben voilà, ils auront suffisamment augmenté leur stock et plus besoin de maintenir ce rythme de croissance-là. Donc à un moment, ça retombera quand même, Thibault.
Ouais, à un moment donné, ça va retomber forcément, mais pour l'instant, la visibilité
est
forte.
C'est cyclique tout ça.
C'est cyclique, mais le cycle pour l'instant est bien ancré. Il y a de la croissance, la demande est extrêmement forte et l'offre surtout n'arrive pas à juguler à arrêter cette demande. Et donc pour l'instant, 26-27 nous semble plutôt bien orienté sur l'ensemble du secteur.
Franck, une valeur de la tech qui cartonne, qui s'envole, il y en a plein en ce moment. On a cité Dell qui a gagné 40% de séance, HP, Hewlett Packard, les bons vieux ordi. Plus 20% sur la séance d'hier. On a aujourd'hui même, alors c'est pas de la tech, mais ça va le devenir peut-être, Valeo dans les équipementiers auto qui gagne 19%. Pourquoi ? Parce que JP Morgan nous dit Valeo aussi va profiter de l'IA. En fait, leur technologie pour refroidir les batteries des véhicules, les batteries électriques, serviront aussi ces technologies pour refroidir les data centers. Donc Valeo, d'un coup, gagne 19%. De toutes ces valeurs qui cartonnent, laquelle, pour vous, est amenée à continuer, à poursuivre à la hausse pour la suite ? Franck ?
Alors, de toutes les valeurs qui cartonnent, je sais pas si celle que dont je vais vous parler aujourd'hui, enfin, si je sais, elle perd 3%, celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, elle ne cartonne pas aujourd'hui, c'est Prosus. Ah. Donc, Prosus, c'est la holding qui est cotée aux Pays-Bas qui permet de détenir du Tencent, puisque Prosus est l'un des principaux actionnaires de Tencent. Donc, on a une grosse décote et ça permet d'investir via son PEA sur du Tencent et donc de miser aussi sur les nouvelles fonctionnalités et d'IA que Tencent vient de sortir et va développer. Donc c'est un très bon moyen d'investir sur cette thématique sans aller taper sur les nombreux dossiers qui sont sur des plus hauts historiques, voire sur des niveaux de valorisation qui deviennent tout de même un petit peu folkloriques.
Prosus, pour vous, Romain, d'un point de vue graphique et technique, quel potentiel ?
Mais Prosus, après un long parcours baissier entamé en novembre 2025, elle s'est arrêtée de baisser au mois de mars dernier sur ce support à 38,10. Il faut reconstruire. Pour l'instant, on n'a pas de structure de retournement, mais une stabilisation dans une zone de prix 38,10, 41,61. Si on arrive à déborder 41,61, c'est 45,85, puis 49,75. Effectivement, pour l'instant, c'est en stand-by, c'est pas encore réactivé.
Romain, sur Dell quand même, qui nous a tous surpris, Dell en fin de semaine dernière et encore en début de semaine, là, sur Dell, malgré la hausse de 40% en 2-3 jours, vous restez positif pour la suite ?
Sur Dell, on reste positif. Ah non, c'est des mouvements qui sont.
Oui, non, elle était difficile à. Oui, allez-y, Romain, c'est à Franck que je voulais poser la question, mais comme vous ressemblez, j'ai confondu les prénoms. Allez-y.
Non, c'est des progressions qu'on peut toujours anticiper, trouver des extensions haussières. Là, on voit un peu de retracement aujourd'hui encore. On avait une cible par extension à 429,15. On repasse un peu en dessous. Ça pourrait retracer un peu, non, du potentiel haussier vu ce qui vient de se produire. C'est difficile à envisager plus dans l'immédiat.
Mais lui, il croit. En tout cas, c'est ce qu'il nous a expliqué en préparant ce moment, ce rendez-vous. On va voir s'il l'assume aussi à l'antenne. Alors que graphiquement, Romain vient nous expliquer que c'était compliqué désormais pour Dell après une telle hausse. Vous êtes, d'un point de vue plus fondamental, Franck, positif, encore positif sur le potentiel de Dell. Est-ce que vous allez l'assumer à l'antenne là, comme dans nos échanges pour préparer ce rendez-vous ?
Oh bah alors ça va être extrêmement simple pour moi de l'assumer, pour la bonne et simple raison qu'on a dit à l'intégralité de nos abonnés que nous avions acheté du Dell il y a 3 mois. Donc on a acheté du Dell, on est investi dans Dell, donc notre position vient de plus que de doubler compte tenu de la progression du titre et on a allégé pour revenir à notre taille initiale. Donc on a coupé la moitié de notre position pour revenir à la taille de 5% de notre portefeuille US et donc on reste positif. On était positif sur Dell, tout simplement pour la bonne et simple raison que c'était une des dernières sociétés technologiques qui était relativement faiblement valorisée et qu'on pensait que la demande en serveur allait exploser. En l'occurrence, on a eu raison. Ça a été aussi confirmé par HPE, pas Hewlett-Packard, les ordi, mais la partie plutôt serveur. Donc oui, il y a une demande de serveur qui explose et donc Dell en a profité. Et compte tenu des niveaux de valorisation qui étaient relativement faibles et de l'explosion de l'activité, il reste à notre sens du potentiel. Maintenant, se positionner après une hausse de 150%, c'est des fois compliqué. C'est plus facile de tenir sa position et d'assumer à la radio qu'on est investisseur que de dire qu'il faille l'acheter ce soir assez court.
Voilà, de CRSI, c'est une autre valeur qui cartonne en ce moment. On est sur le marché parisien, une beaucoup plus petite valeur. Attention, pensez bien tous toujours à diversifier et pas vous laisser comme ça aveugler par ces valeurs qui montent. Mais de CRSI, c'est un vrai carton aussi. Et pour le coup, un carton dans lequel vous continuez à croire, vous, Thibault, pour la suite.
Ouais, les perspectives sont juste incroyables. Ils viennent de relever leur perspective 25-26. 26-27, ils visent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Je le rappelle, ils ne visaient même pas 100 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a encore quelques semaines. Oui. Donc c'est juste incroyable. Et surtout, il y a encore des gros carnets. Il y a le carnet de commandes qui devrait progresser. Et il y a des grosses commandes qui pourraient tomber dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc c'est vrai qu'on reste toujours avec un momentum extrêmement favorable sur le dossier.
Romain, de CRSI, on est dans les petites valeurs, mais voilà, graphiquement, vous voyez quel avenir pour ce groupe ?
Bien, c'est un titre qui se comporte proprement graphiquement, un canal haussier qui s'est mis en place mi-mai, et qui donc est toujours bien préservé. Premier niveau d'alerte, c'est 51,60. On vient de toucher la borne haute du canal. Les extensions, si on rebondissait sur la borne basse, ça pourrait renvoyer le titre à 63,50 par la suite. On n'a pas de signe de retournement, mais un petit peu d'essoufflement depuis deux ou trois séances sur le titre, avec une structure qui indique qu'on pourrait former une pause compte tenu du parcours récent.
Et alors Valeo, même Valeo désormais devient une valeur IA, en tout cas sur la séance du jour c'est le cas, on verra si ça dure ou si demain le titre va s'effondrer ou pas. Valeo gagne 20% ce soir Thibault, parce que d'après JP Morgan, Valeo va profiter de l'IA et des data centers. En fait il faut les refroidir les data centers et Valeo va les refroidir. C'est ce que pense JP Morgan d'un seul coup là.
Effet IA, c'est incroyable. Alors c'est on va dire c'est plutôt malin de la part de Valeo, hein. C'est vrai que le secteur automobile est à la casse depuis de nombreux trimestres, les usines tournent au ralenti, donc c'est un nouveau produit, un nouveau secteur pour Valeo,
oui, qui refroidit les batteries électriques des véhicules et qui pourra refroidir aussi les batteries des data centers.
C'est exactement ça. Donc c'est un petit peu le métier de CRSI, on vient de le voir, le carnet de commandes a été explosif. Donc c'est vrai que Valeo, s'ils ont cette capacité à aller chercher des commandes dans le secteur de l'intelligence artificielle en refroidissant la partie data center, ça peut être effectivement une nouvelle activité pour Valeo et une nouvelle aventure pour le titre Valeo.
Il y a peut-être des débouclements des positions short aussi, hein, sur un groupe comme Valeo à plus 20.
Clairement.
Il y a ça aussi. Ouais. Ouais. Donc des effets peut-être qui créent de l'exagération dans les mouvements de marché. Valeo d'un coup, c'est une darling des marchés. Là. En tout cas sur la séance du jour, Franck, vous y croyez ou pas, Valeo dans l'IA ?
Alors, la taille du contrat qu'ils ont signé sur cette diversification est relativement faible. On parle de 225 millions de dollars, donc rapporté au chiffre d'affaires de Valeo, c'est faible. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont aucun coût pour fournir cette solution. C'est quelque chose qu'ils font déjà, qu'ils savent faire. Donc, et potentiellement, ils ont trouvé un débouché à leur activité. Après, Valeo, si elle veut, elle peut vraiment rebondir, hein, parce qu'on est sur un équipementier automobile, donc on est sur le deuxième secteur, sous-secteur, dirons-nous, le moins bien valorisé de l'ensemble de la cote. Et probablement de l'ensemble des places boursières aujourd'hui en Europe avec les équipementiers automobiles. L'automobile, c'est ce qu'il y a de moins cher. Les équipementiers automobiles sont juste en deuxième position. Donc si on avait juste un petit éclair, un petit réveil et une bonne raison, en l'occurrence potentiellement, de se réveiller, le niveau de valorisation actuel de Valeo laisse de la place à un très gros rattrapage. On ne peut pas être beaucoup plus bas en valorisation qu'actuellement sur Valeo.
Romain, de combien le rattrapage potentiel d'un point de vue graphique là, vous regardez, vous anticipez l'avenir grâce au graphique, vous voyez grimper jusqu'où ce titre ?
Déjà, la structure de retournement haussière qui a été validée entre hier et aujourd'hui, donc c'est rapide, mais de quelle manière, au débordement de ce niveau de 13,65 permet de viser à court terme 20,50. Donc on a encore un bon potentiel de hausse à court terme. Après, les extensions à plus long terme, c'est 23,30 et puis pourquoi pas 28,88. Il y a effectivement un très gros potentiel de rattrapage aussi pour le titre qui a formé une structure de retournement de long terme ici.
Oui, Air Liquide aussi dans l'IA, pris dans l'IA, qui profite de l'IA, Air Liquide, un contrat de 200 millions de dollars avec SK Hynix, le coréen, pour aider SK Hynix à produire toujours plus de puces mémoire. Et oui, dédié à l'IA, c'est puces mémoire. Air Liquide est dans le coup, il gagne 2% ce soir, Thibaut, voilà.
Ouais, c'est effet marketing pour Air Liquide, clairement. Il n'y a pas de raison que le titre gagne 2% aujourd'hui, juste sur ce contrat-là, sur Air Liquide.
Franck, vous partagez?
Oui, je suis assez d'accord. D'ailleurs, ça commence à être un peu trop IA un peu de partout. Oui. C'est pas forcément bon signe pour la suite.
Bon, alors on va changer de thème. Non, non, mais très bien. Non, mais j'ai compris. On va parler vêtements, tiens, textile. C'est le moment. Parce que dans la vieille économie, on a encore des stars ici en Europe. Bien sûr, il y a luxe pour nous. D'ailleurs, joyeux anniversaire au groupe LVMH. C'est vos équipes chez Zone Bourse, d'ailleurs, Franck, qui ont opéré qu'aujourd'hui, c'était le 39e anniversaire d'LVMH. Et oui, effectivement, né un 3 juin 1987, quand LV, Louis Vuitton et MH, Fautensi, se sont réunis. Voilà. Donc, joyeux anniversaire à eux. Mais on a aussi dans la bonne vieille économie et le textile un peu moins haut de gamme, Inditex, la maison mère de Zara. À chaque fois qu'ils publient, c'est une bonne surprise. À chaque fois, le marché achète. Et c'est le cas encore ce soir. Inditex gagne à Madrid plus de 3%, Thibault.
C'est incroyable. Trimestre après trimestre, ils arrivent à sortir de la croissance organique, à améliorer les marges. Alors, alors c'est pas une marque de luxe, on est d'accord, hein, sur Zara, mais ils ont vraiment pris un virage qui est beaucoup plus premium. Ils ont augmenté les prix de façon significative depuis le Covid. Et malgré les hausses de prix, ils arrivent à faire de la croissance organique de façon importante. C'est assez impressionnant ce qu'ils réalisent dans un secteur qui est vraiment sinistré, où toutes les marques déposent le bilan, ou presque. Ils arrivent à devenir et à consolider, bien sûr, leur place de leader. Donc, pour l'instant, momentum encore extrêmement favorable sur le dossier Inditex.
Vous avez envie de l'acheter, Inditex, la maison mère de Zara, Franck ?
On aurait envie de l'acheter, on ne l'a pas, on pourrait l'avoir. C'est clairement une réussite européenne dans l'exécution. Et la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que l'activité démarre très très fort sur la saison estivale. Donc a priori, la prochaine publication trimestrielle sera aussi de très bonne augure. Donc oui, c'est une des must-have en Europe aujourd'hui.
Bon, on va rester loin de l'IA. Non mais j'ai compris le message, on parle trop d'IA, il y a trop d'IA partout dans les marchés. Très bien, oublions l'IA. Avec vos pépites, messieurs. Et là vraiment, Thibault, vous nous envoyez très très loin de l'IA. Votre pépite pour l'avenir, cette valeur dans laquelle vous croyez contre vents et marées, vous allez la livrer à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est Boiron.
Effectivement, Boiron. Boiron qui est bien connu sur la partie homéopathie. Alors, c'est plus remboursé en France. Dans l'actu, il n'y a pas grand-chose à part le dividende qui est tombé aujourd'hui. Mais par contre, ils ont sorti une superbe publication il y a quelques semaines. Ils ont nettement amélioré les résultats et notamment le secteur aussi, tout ce qui est cannabis thérapeutique sur lequel ils se sont lancés maintenant il y a quelques années, qui est en train de cartonner avec beaucoup de perspectives sur le dossier. C'est un dossier qui a failli sortir de bourse. L'OPA avait raté il y a quelques trimestres, mais à mon avis, ça fait toujours partie de l'histoire boursière sur Boiron. Je vois pas trop pourquoi ça reste en bourse aujourd'hui. Donc ça fait partie d'une thématique possible d'une sortie de bourse dans les prochains trimestres.
Merci à tous les deux. On avait prévu de parler un peu de SpaceX aussi, mais c'est dans 9 jours a priori l'introduction en bourse. Le 12 juin, on aura le temps d'en reparler d'ici là. SpaceX, dont on entend parler d'un prix de $135 par action. Merci de nous avoir accompagnés. Thibaut François, Fastia Capital. Bon retour, Thibaut.
Bonne soirée, Guillaume.
Un grand merci à Franck Morel qui nous accompagne depuis Zone Bourse et à Romain Daubry à l'autre bout de la France depuis les bureaux de Bourse Direct. Le CAC 40 ce soir perd 0,7%. Dans un instant, vous retrouvez Edwige Chevrillon pour le 18-19 avec Antoine, le débrief de cette séance. A tout de suite, bonne soirée.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.